Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Bien, essai, c'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, que sais-je. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Et je vous donne le titre, 2050 points, c'est dans le titre, 2050 points, pourquoi un monde sans carbone est presque impossible. Ça a été écrit par Vaclav Smil, dont je vais vous parler. C'est aux éditions Arpa. C'est un tout petit livre, il fait 89 pages. Il coûte 14,90 €, mais je vous rassure, on en a largement pour son argent. Alors Vaclav Smil, ben, il est né en 1943 à Plezen, c'est un scientifique parce qu'il est né en Tchéquie, tchéco-canadien, mondialement connu pour ses contributions dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de la démographie, des politiques publiques. Il est professeur émérite à l'Université du Manitoba. Il a publié plus de 60 ouvrages et 500 articles scientifiques, donc il est prolifique et on peut imaginer qu'il connaît bien le problème. Il figure parmi les 100 penseurs les plus influents du monde, selon Foreign Policy, qui il a reçu l'Ordre du Canada en 2013, ainsi que de nombreux autres prix et distinctions. C'est amusant parce que ce livre commence par un tas de personnes qui parlent de lui, qui donnent son avis sur ce qu'il est. Le journal Science qui écrit le plus grand expert au monde dans le domaine de l'énergie. Jean-Baptiste Fressoz qui nous a fait un excellent livre, qui est historien, qui s'appelle Sans transition, qui dit de lui, je le cite, « Smil est un des meilleurs guides qui existent pour comprendre le fonctionnement technico-matériel du monde. » C'est quand même pas rien. Le Guardian, Nature... Jean Covici, qui nous dit un des auteurs les plus prolifiques du monde anglo-saxon sur la place de l'énergie dans le fonction du monde, je suis parvenu à des conclusions très voisines des siennes. Voilà donc quelqu'un qui est reconnu dans son milieu, qui en est un grand expert. Il est édité par Arpa, une maison qui n'est pas forcément très connue, qui s'est donnée pour mission de publier ce qu'il considère comme être les meilleurs ouvrages et les meilleures ventes de la non-fiction internationale. Et qui dit dans son chapeau, quand on va sur son site, dans ce contexte de repli identitaire, nous faisons le pari de l'ouverture à l'international pour enrichir et dynamiser le débat d'idées en France. Notre catalogue est généraliste et pour nous, cette ouverture à un large champ thématique est importante. Donc ils ont effectivement de grands auteurs. C'est une maison d'édition Arpa qui a fait un pari francophone hein, puisqu'elle est l'émanation d'une maison espagnole qui a été créée en 2016, qui connaît aujourd'hui un joli succès et qui s'appelle Arpa Editores. Donc un projet porté par deux hommes qui sont amis depuis leurs études en Sciences Po Paris. Et il travaille en partenariat avec Calari Edition, donc des gens à suivre. Alors la quatrième qui vous donnera le thème de ce livre, mais vous le devinez déjà peut-être, je cite donc cette quatrième. Malgré les accords internationaux, la réglementation, l'innovation, les investissements et les changements de comportement, la consommation mondiale d'énergie fossile a augmenté de 55% entre 1997 et 2023, tandis que la part des énergies fossiles dans la consommation énergique mondiale n'a baissé que de 86% à 82%. Aussi, la transition en cours sera longue et complexe. Elle s'opère à une échelle sans précédent, requiert des technologies encore inexistantes et des quantités phénoménales de ressources et soulève des défis environnementaux, sociaux, économiques et géopolitiques majeurs. Nous sommes confrontés à un choix : investir 20% du PIB mondial dans la transition, décroître volontairement ou nous effondrer, ou renoncer à l'objectif climatique de 1,5 degré centigrade en exposant ainsi la planète à des risques incalculables. Voici le trilemme au cœur de cet essai percutant rédigé par l'un des penseurs les plus influents de notre époque, un coup de pied dans la fourmilière de la pensée magique, entre guillemets, en matière d'énergie et de climat. Donc vous avez le ton. Et je vous donne, pour que vous ayez un peu une idée du contenu, je vous donne la table des matières, donc qui a 8 chapitres, hein, outre l'introduction et la préface. Le carbone dans la biosphère, transition énergétique, notre bilan à ce jour, ce qu'il faudrait faire pour inverser la tendance passée en matière d'émissions, la tâche qui nous attend, l'électricité et l'hydrogène zéro carbone, coûts, politique et demande, réalité ou vœux pieux, et réflexion finale. Voilà le contenu. Alors, on va essayer de faire une petite lecture de quelques lignes, parce que c'est quand même mieux, hein, pour donner un peu l'ambiance de ce livre, donner le ton du livre. Page 12, nous sommes dans la préface. La plupart des gens n'ont pas conscience que le retrait mondial du carbone fossile n'a pas encore commencé, car on a augmenté notre dépendance à son égard et on brûle aujourd'hui environ 50% de combustibles fossiles de plus qu'il y a un quart de siècle. La transition à venir n'est pas une simple question de substitution technique, comme l'a été le remplacement des téléphones fixes par des téléphones portables, parfois cités de manière trompeuse. Elle nécessitera des changements fondamentaux dans la plupart des moyens que nous utilisons aujourd'hui pour alimenter, organiser et soutenir notre civilisation. L'ampleur de la transition. On extrait actuellement plus de 10 milliards de tonnes de carbone fossile par an. Son caractère mondial, qui exige la participation concertée de nombreuses parties, et sa complexité, il ne s'agit pas seulement d'adopter de nouvelles méthodes pour produire de l'électricité ou chauffer des maisons, mais aussi de transformer la production de milliards de tonnes de ciment et d'acier et de centaines de millions de tonnes de plastique et d'ammoniac, et de trouver de nouveaux moteurs pour tous les modes de transport, en font une tâche intrinsèquement longue, au coût élevé mais très incertain, et dont le déroulement est dans une large mesure imprévisible. La prépondérance des faits conduit à une conclusion réaliste, l'élimination de la combustion de tout carbone fossile d'ici 2050 est presque impossible. Alors, vous voyez là, nous sommes dans la préface, mais il vous donne déjà la conclusion. Alors, on peut peut-être sauter, si je puis dire, à la page... À la page 62, où j'avais trouvé un passage intéressant, beaucoup plus court. Hein. Je recite Václav Smil. Le réchauffement de la planète est un problème mondial et la décarbonation ne peut se faire sans une participation mondiale. La majeure partie du fardeau étant supportée par un petit groupe de grands émetteurs. La Chine est aujourd'hui responsable de 31% des émissions mondiales dues à la consommation d'énergie, les États-Unis de 14%, l'UE de 11%, l'Inde de 8%, la Russie de 4% et l'Arabie Saoudite et l'Indonésie environ 2% chacune. Quelles sont les chances que ces 7 grands pays avancent harmonieusement et résolument au cours des 27 prochaines années vers l'objectif commun de la neutralité carbone d'ici 2050. Vous voyez que c'est une bonne question et peut-être que la réponse est même contenue dans la question. Alors, cette conclusion de cet essai, mais c'est un essai qui nous donne la conclusion avant même que, puisque je vous ai lu dans la préface la conclusion de l'essai, c'est peut-être intéressant quand même de lire ces quelques lignes terminales de Václav Smil. Aucune loi naturelle ne nous empêche de réaliser les énormes investissements nécessaires pour soutenir cette gigantesque transformation année par année. Nous pourrions envisager d'entreprendre une mobilisation existentielle sans précédent d'efforts constructifs et transformateurs qui dureraient des décennies et s'étendraient à l'ensemble de la civilisation. Mais nous pouvons aussi réduire délibérément notre consommation d'énergie en abaissant notre niveau de vie afin de faciliter la réduction de nos émissions de carbone fossile. Alors pourquoi faut-il lire ce livre ? Que nous apprend-il ? Ben, vous l'avez déjà compris. Hein. Encore une fois, petit livre, extrêmement bien renseigné, documenté. Il est net, il est précis, il est d'une démonstration difficilement contestable. Il est technique, mais moi qui ne suis pas un technicien, je peux vous le dire, j'ai tout compris. Donc je pense que tout le monde peut l'aborder. Et surtout, cet ouvrage soulève une question centrale. Que faire des grands objectifs mondiaux ? Faut-il s'y accrocher coûte que coûte ? En espérant qu'ils inciteront chacun à passer à l'action, même s'ils paraissent totalement hors d'atteinte. Pour Václav Smil, qui regrette, et je cite, « une tendance indéniable à l'optimisme excessif, à l'exagération ou au battage médiatique, ces vœux ne devraient pas être utilisés ou défendus au motif qu'il s'agit d'objectifs aspirationnels, et c'est son terme. Autrement dit, certains prennent leurs désirs pour des réalités et ce manque de réalisme est clairement dénoncé par Smil. Et il nous dit, là aussi je le cite, on devrait plutôt s'efforcer de tracer un avenir réaliste qui tienne compte de nos capacités techniques, de nos approvisionnements en matériaux, de nos possibilités économiques et de nos besoins sociaux, puis de concevoir des moyens pratiques pour y parvenir. » Alors, si la décarbonation complète du système énergétique n'est pas possible d'ici à 2050, eh bien, vous l'avez compris, Václav Smil ouvre la voie quand même, in fine, à d'autres pistes pour lutter contre le réchauffement. Limiter, par exemple, les gaz à effet de serre issus de l'agriculture, de l'élevage ou encore de la déforestation, parce que ce sont des secteurs qui consacrent aujourd'hui encore peu d'efforts. Et qui peuvent avoir un impact majeur sur le climat, et puis avec, au final, toujours, et peut-être qu'il faudra en arriver là, la possibilité de vivre différemment en étant plus économe de notre énergie. Voilà, c'était Essai marquant par Jacques Lavergne, avec à la réalisation le sémillant Grégoire Nachez. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que ceux de toutes les autres, sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.